Bonsoir à tous. Les Russes bombardent, encerclent, étouffent les grandes villes d'Ukraine. L'effroi d'un septième jour de guerre. Emmanuel Macron doit s'adresser aux Français à 20h. Nous suivrons l'allocution. Tandis qu'à la tribune de l'ONU, l'Ukraine dénonce un génocide. L'Assemblée générale des Nations unies exige de la Russie l'arrêt de la guerre. L'actualité, c'est encore ce soir l'agression d'Ivan Colonna à Arles, où il purge sa peine pour l'assassinat du préfet Erignac. Le militant indépendantiste corse est en état de mort cérébrale. Et puis la mort de l'homme du 13h, Jean-Pierre Pernaut, 71 ans, présentateur star de l'édition de la mi-journée sur TF1 pendant plus de 30 ans. Et au téléphone sonne, Christelle.
La solidarité d'abord. Vous le savez, France Inter consacre sa journée à l'aide aux Ukrainiens. Alors qu'êtes-vous prêt à faire pour aider les réfugiés, mais aussi et surtout ceux qui sont restés là-bas et qui commencent à manquer de tout? Que vous soyez investi dans des associations ou pas, nous allons vous aider à offrir ce que vous souhaitez. On verra surtout comment. Appelez-nous dès maintenant 01 45 24 47 000. Il y a beaucoup d'initiatives mises en place.
France Inter. Salve d'applaudissements ce soir à l'ONU à l'issue d'une assemblée générale historique et d'une résolution adoptée massivement qui exige le retrait russe, la fin de la guerre lancée par Moscou. Alors que sur le terrain, en Ukraine, la journée a encore été chaotique, le sud-est du pays sous les bombes et des troupes aéroportées ont débarqué à Kharkiv, la deuxième ville du pays, traumatisée déjà par les bombardements des dernières heures qui ont touché le siège de l'administration locale, la mairie, des bâtiments universitaires. Bonsoir Rémi Brancato.
Bonsoir.
Vous avez réussi à joindre des universitaires francophones de Kharkiv.
Oui, Inga Yatsenko, notamment 47 ans, elle enseigne le français à l'université. Depuis une semaine, elle est enfermée avec son amie chez elle dans l'est de Kharkiv. Et quand elle sort pour faire quelques courses, elle ne reconnaît pas sa ville.
On reste dehors à faire la queue sous les bruits des tirs et les gens ne se dispersent pas parce que tout le monde a besoin de s'approvisionner. Il y a des avions qui survolent la ville et qui bombardent les maisons. Toute la ville est en fumée, c'est horrible. On se croit dans un film sur la Seconde Guerre mondiale. On se croit envahi par les troupes de Hitler. Je ne peux le comparer à rien d'autre. On est en train de raser ma ville de la surface de la terre.
Depuis 48 heures, des quartiers habités par les civils sont visés. Alors certains habitants ont pris les armes.
Un de mes ex-étudiants est mort. Il était membre de la défense territoriale.
Quel âge avait-il ?
23 ans. J'ai peur d'ouvrir les messageries, j'ai peur d'apprendre les mauvaises nouvelles.
Un bâtiment universitaire a été touché par un bombardement, un symbole insupportable pour Alexei Kiryukin. Il dirige le centre académique francophone de l'université qui organise les partenariats avec la France, la Belgique et le Luxembourg notamment.
J'ai étudié dans cette université, j'ai travaillé comme professeur et aujourd'hui je travaille comme directeur du centre. C'est affreux.
Alexei est né à Kharkiv, alors il y reste, dit-il, tout comme Inga, tant que ses étudiants sont en ville, dit-elle.
Voilà donc pour la situation à Kharkiv. Merci Rémi Brancato. Et à 500 kilomètres de là, la capitale Kiev vit des heures d'angoisse. Après le bombardement de la tour de télévision hier, nous retrouvons Gilles Gallinaro et Omar Waman en direct. Bonsoir. Omar, rare journaliste que vous êtes à être encore présent sur place. La population craint de vivre dans les heures qui viennent le même chaos à Kiev qu'à Kharkiv.
Oui, car ils craignent que leur ville ne subisse le même sort, qu'un tapis de bombes ne s'abatte sur la capitale, car à ce stade, les bombardements sur la métropole ukrainienne sont sporadiques, mais pourraient s'intensifier dans les prochaines heures. C'est en tout cas le scénario redouté par la population qui a de nouveau aujourd'hui pris d'assaut les supermarchés qui se vident. Les rayons ont été littéralement dépouillés. Des articles comme le pain, le sucre, les fruits ou les légumes sont extrêmement rares, donc beaucoup n'ont pas pu faire de réserve et vivent au jour le jour. Quant à la garde de Kiev, c'est la cohue. Les habitants tentent de fuir coûte que coûte, mais les places sont difficiles à trouver et les trains souvent annulés. Seul espoir pour la population, ce sont les pourparlers entre Ukrainiens et Russes en Biélorussie demain, où un cessez-le-feu sera discuté.
Merci beaucoup Omar Waman et Gilles Gallinaro en direct de Kiev pour cette guerre qui est une guerre d'information et d'image. L'Ukraine Poutine espère sans doute nourrir les protestations anti-guerre en Russie avec cet appel aujourd'hui aux mères des soldats russes capturés par les Ukrainiens. Bonsoir Marie-Pierre Véraud.
Bonsoir.
Le ministre de la Défense leur dit « Venez chercher vos fils, on vous les rendra ».
Voilà, venez à Kiev, nous vous remettrons votre fils. Un communiqué du ministère de la Défense avec les numéros d'une hotline baptisée « Revenez vivant d'Ukraine » et une adresse mail afin que les mères puissent obtenir des informations sur leurs enfants. Il y a aussi cette plateforme internet qui publie la photocopie des papiers des soldats faits prisonniers, ainsi que des témoignages vidéo comme celui-ci.
Je m'appelle Dosaev Aliran Ahmedovitch, dit l'homme face caméra, avant de raconter que les sbires de Kadyrov, le Tchétchène, lui avaient promis de l'argent pour faire du renseignement, mais qu'il est aujourd'hui prisonnier de guerre. Il exhorte ses frères à ne pas venir en Ukraine, l'Ukraine où la mort, dit-il, les attend. Alors il est difficile d'en vérifier l'authenticité, mais ces témoignages se multiplient. Cela fait partie de la stratégie de communication très impressionnante, il faut le dire, du gouvernement ukrainien depuis le début de cette guerre. Il y a eu cette appel en russe du président Zelensky, ces messages lus à la tribune de l'ONU par le représentant ukrainien et dans lesquels un soldat russe avoue à sa mère sa peur et son dégoût devant le carnage. Une vidéo est également particulièrement partagée aujourd'hui. On voit un soldat russe qui s'est rendu. Il est entouré de quelques habitants qui lui apportent à manger. Nous sommes dans la région de Mykolaïv, dans le sud. Le soldat boit un thé. Une femme appelle sa mère en vidéo. Ils font en larmes. Le tout filmé au portable et donc largement partagé. Kiev, qui a déjà mis une grande partie du monde de son côté, veut visiblement aussi soulever l'opinion publique russe.
Et en Russie, c'est l'opposant Alexei Navalny qui a appelé aujourd'hui la population à braver l'interdiction des autorités et à manifester chaque jour contre l'invasion de l'Ukraine. Plus de 870 000 Ukrainiens déjà ont fui le pays, selon l'ONU, qui s'attend à ce rythme à potentiellement 4 millions de réfugiés. Il faut dire que les routes vers la Pologne, surtout, sont toujours bondées, qu'il faut des journées pour avancer ne serait-ce que de quelques kilomètres. Et puis des centaines de Français sont encore bloqués en Ukraine. Les déplacements risqués. Bonsoir Ajra Mohammad.
Bonsoir.
Vous étiez ce matin à la cellule de crise du Quai d'Orsay qui essaie depuis une semaine de maintenir le contact.
Oui, dans une salle du ministère, une centaine d'agents se relaient 24 heures sur 24 pour répondre au téléphone à l'autre bout du fil des Français expatriés en Ukraine. Au moins 400 sont encore là-bas. Les autres ont pu quitter le pays déjà ou sont en train de partir par leur propre moyen. Stéphane Romaté dirige le centre de crise du Quai d'Orsay.
Évidemment, notre souhait, c'est de pouvoir tout faire pour pouvoir sortir les Français. C'est notre devoir. Mais effectivement, l'Ukraine est aujourd'hui en zone de guerre. Tant qu'il n'y a pas de couloir aérien, tant qu'il n'y a pas de corridor humanitaire, toute opération d'évacuation que nous pourrions organiser avec des moyens de l'État, aujourd'hui, ces opérations ne sont malheureusement pas possibles.
Alors, depuis Paris, le ministère tente malgré tout d'aider ceux qui sont encore bloqués sur place.
Nous partageons les informations avec eux sur toutes les voies possibles, des initiatives individuelles qui se mettent en place, des convois de véhicules organisés par des Français, par d'autres Européens, le train aussi qui peut être une voie de sortie. Et parfois nous faisons aussi des mises en relation entre Français pour qu'ils puissent s'organiser entre eux.
Mais malgré ce lien quasi quotidien, certains craquent, s'énervent et se sentent totalement abandonnés.
Il y a des situations dramatiques. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons mis aussi en place une cellule d'aide psychologique, s'ils le souhaitent, pour leur faire sentir que nous sommes là.
Et en plus des Français expatriés, la cellule de crise doit gérer une autre mission, l'acheminement de l'aide humanitaire. Hier, par exemple, 33 tonnes de matériel pour l'hébergement d'urgence des réfugiés ukrainiens ont été livrées en Pologne.
Reportage Ajra Mohammad. Et pendant ce temps, les Russes attendent une délégation ukrainienne qui est en route vers le Bélarus pour reprendre les pourparlers. Demain, Omar Waman l'évoquait tout à l'heure, un négociateur russe dit même être prêt à mettre un cessez-le-feu sur la table. Alors que c'est désormais acté, 7 banques sont débranchées du système SWIFT qui permet de sécuriser les paiements à l'international. Un gros handicap pour les Russes, même si les deux banques par lesquelles transitent les paiements du gaz ne sont pas concernées. La Russie fournit à l'Europe 40% du gaz qu'elle utilise. Les 27 cherchent l'alternative. Et puis une autre sanction annoncée a pris effet aujourd'hui. La chaîne russe RT a cessé d'émettre. Avant que l'antenne soit coupée, la présentatrice a fait ses adieux aux téléspectateurs.
Et c'était le dernier JT d'RT France après donc cette décision de l'Union européenne de nous bannir de l'espace européen. Jusqu'au bout, nous avons travaillé librement, avec sérieux, honnêteté, présentant tous les points de vue, respectant toutes les opinions, donnant la parole à ceux qu'on n'entend pas dans les médias traditionnels pour vous donner une information complète. Nous avons toujours respecté les règles qui s'imposaient à nous. Nous sommes aujourd'hui touchés par une décision arbitraire, sans contradictoire possible. Une décision qui crée un précédent dangereux pour la liberté de la presse, la liberté d'expression. Nous devrions tous la regretter profondément.
Une pétition a été mise en ligne, ça c'était les derniers mots donc de la présentatrice avant que le faisceau soit coupé. Les sites internet, eux, sont encore accessibles, mais ça ne devrait pas durer. La guerre en Ukraine et les conséquences que nous pouvons attendre en Europe, objet d'une allocution d'Emmanuel Macron tout à l'heure, 20h, on la suivra en direct avec vous Christelle et les oui. analyses de nos éditorialistes, Pierre Aski et du chef du service politique, évidemment, Yael Gauze.
Il est 19h10 sur France Inter, il était la voix de l'information et du terroir, un monument de la télévision. Jean-Pierre Pernaut vient de mourir à l'âge de 71 ans.
Il avait partagé son combat contre le cancer du poumon, celui qui a tenu les rênes du journal de 13h de TF1 pendant plus de 30 ans, qui tous les midis emmenait les téléspectateurs dans les villages de France. 5 millions de téléspectateurs étaient ponctuels chaque jour pour sa grand-messe et plus de 8 millions ce 18 décembre 2020, le jour où il a quitté l'antenne.
Après 33 ans avec vous, on a créé des liens très forts. Je voudrais vous dire que j'y ai mis toute ma passion pendant presque la moitié de ma vie. Vous le savez, c'était un honneur de pouvoir traverser la petite, la grande histoire du monde pour vous écouter, faire entendre tous ceux qu'on n'entend pas ailleurs. Ça a été une révolution il y a 33 ans. Ça a été ma ligne de conduite depuis 33 ans et j'en suis très fier.
Il voulait un journal moins parisien, moins institutionnel. Il aimait le cliché du clocher. Mais il n'y avait pas que dans les campagnes que c'était une figure Jean-Pierre Pernaut. Même à Paris, quand Marcelin Robine a annoncé la nouvelle tout à l'heure aux passants.
Mais non, pardon.
Non, je suis choquée, c'est faux.
C'est une légende.
Depuis toute petite, on le regarde à la télé et tout, donc ça fait bizarre.
On l'a toujours connu en fait, on a toujours vu que lui à la télé.
Jean-Pierre Pernaut, il est mort ? C'est pas vrai. Ah merde, je pensais qu'il allait guérir. Le personnage, il était à grève, il était cool, il était sympathique. Je suis sonné, oui, complètement sonné, oui.
Vous me l'apprenez, donc je suis complètement... je suis surprise. C'était des TF1, tous les jours à 13h. C'était lui, c'était que lui. Mon mari me disait, mais pourquoi tu changes pas de chaîne? Non, c'était que Pernaut.
Réaction sidérée au micro France Bleu Paris de Marcelin Robine, Jean-Pierre Pernaut, présentateur mythique et une intuition à laquelle rend hommage Robert Namias, l'ancien directeur de l'information à TF1.
Quand Pernaut a pris le journal en 88, le journal de 13h, présenté par Montrougy, était en grande difficulté. Et Pernaut a eu une intuition, qui d'ailleurs, au départ, avec Michel Cotta notamment, qui était la directrice de l'information de l'époque, nous a beaucoup surpris, mais qui était la bonne manifestement, c'était de prendre l'exact contre-pied de Montrougy et de faire un journal qui soit la photographie constante, permanente, quotidienne, de ce qui se vivait en France et de ce que les Français vivaient en dehors de Paris. Et en 2 ans, Jean-Pierre a imposé ce journal qui est devenu le premier 13h de France. Donc, pour moi, Jean-Pierre, c'est vraiment une intuition exceptionnelle. Très grand professionnel, un garçon d'une extrême gentillesse et d'un extrême courage. Voilà ce qu'on peut dire sur Jean-Pierre.
Robert Namias, joint tout à l'heure par Alexandra Akoun, et beaucoup de réactions depuis, très rapidement d'ailleurs, politiques. Le président Emmanuel Macron, à l'instant, loue sa passion de la France et de nos régions. Jean Castex, un peu plus tôt, saluait la mémoire d'une voix familière. Il nous manquera tous, regrette de son côté la candidate Rassemblement National Marine Le Pen et Valérie Pécresse pour les LR, fait part de son infinie tristesse.
Dans l'actualité aussi, Hélène, cette violente agression d'Ivan Colonna.
Le militant indépendantiste corse condamné pour l'assassinat du préfet Rignac en 98 à Ajaccio est en état de mort cérébrale ce soir. Transféré d'Arles où il purgeait sa peine vers un hôpital de Marseille. Bonsoir Jean-Philippe Degnaud.
Bonsoir Hélène.
Il a donc été grièvement blessé par un autre détenu.
Oui, l'agression est survenue à 10h15 pendant une séance de musculation qu'Ivan Colonna effectuait seul. Un de ses co-détenus en charge du service d'entretien à ce moment-là s'est alors jeté sur lui pour l'étrangler à main nue jusqu'à l'étouffement, précise à l'instant le procureur de Tarascon. Un massage cardiaque pratiqué moins de 3 minutes après l'alerte n'a pas permis de ranimer Ivan Colonna. Son agresseur avait été condamné pour association de malfaiteurs terroristes, mais également pour une série de 14 actes d'incendie et de dégradation à la maison d'arrêt de Condé-sur-Sarthe, où il était détenu précédemment. Et depuis son arrivée à Arles, il était visiblement considéré comme un détenu calme et renfermé. Le mobile de l'agression reste inconnu, d'ailleurs, insiste le procureur, et il n'y avait apparemment aucun signe de conflit entre les deux hommes, témoignent les surveillants pénitentiaires d'Arles. Une double enquête de l'inspection générale de la justice et de la police judiciaire de Marseille est ouverte depuis son arrestation en juillet 2003 et sa condamnation définitive en 2009. Ivan Colonna était sous le statut de DPS, détenu particulièrement surveillé, un statut qui aurait dû théoriquement le présenter préservé de ce genre d'agression. Statut qui l'empêchait par ailleurs d'être transféré dans une prison corse comme il le réclamait depuis toujours au titre du rapprochement familial.
Et toutes ces demandes avaient été refusées jusqu'ici. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
Du service politique de France Inter. Ce rapprochement en Corse est un sujet qui a toujours été très très politique.
Hautement politique, oui. En décembre dernier, encore des parlementaires de tous bords, y compris de la majorité, avaient signé un appel pour qu'Yvan Colonna et les deux autres condamnés, Ferrandi et Alessandri, puissent purger le reste de leur peine sur leur île, au nom, disait-il, du respect du droit. Parmi ces députés, il y avait Jean-Félix Acquaviva. Il a rendu visite pas plus tard qu'il y a un mois et demi à Yvan Colonna dans sa prison. Et ce soir, ses mots sont accusateurs.
À ce stade, on peut dire que le gouvernement et l'État ont une responsabilité écrasante. On a appliqué à ces hommes une peine de mort qui n'était pas son nom. Il y a eu une pression politique permanente sur ce dossier hautement symbolique qui est le caractéristique d'une vengeance d'État.
La nomination d'Éric Dupond-Moretti avait pourtant suscité beaucoup d'espoir en Corse. Le ministre de la Justice était l'un des avocats d'Yvan Colonna, mais il avait dû laisser le dossier au Premier ministre, évidemment, pour éviter tout conflit d'intérêts. Le rapprochement n'a jamais eu lieu. Ni Jean Castex, ni Emmanuel Macron n'ont voulu agir en ce sens. Le président, qui avait été interpellé par l'épouse d'Yvan Colonna en 2018 à Ajaccio, 20 ans après l'assassinat du préfet Erignac.
Bonjour, vous allez bien ?
Je suis la femme d'Yvan Colonna.
Bonjour madame.
Mon fils n'a pas vu son père depuis un an et demi.
Tiens,
s'il vous plaît, monsieur le président, faites quelque chose.
Ce drame n'aurait jamais dû arriver, disent donc ce soir les partisans du rapprochement. Nouveau chapitre d'un dossier inflammable pour tous les gouvernements depuis 24 ans.
Simon Le Baron, Yvan Colonna, qui a donc été transféré à Marseille ce soir dans un état critique. À 39 jours maintenant du premier tour de l'élection présidentielle, la journée a été marquée par un renoncement.
Je m'adresse à vous aujourd'hui pour mettre un terme à un inutile suspense. Il est évident que nous ne réussirons pas à réunir les 500 parrainages exigés pour concourir à l'élection présidentielle.
Christiane Taubira se retire faute de parrainage suffisant. Elle fustige les partis qui n'ont plus, dit-elle, que leur capacité de nuisance, qui lui ont fait obstacle. Yannick Jadot, en campagne à Marseille aujourd'hui, lui tend les bras. Reportage signé Kathleen Comte.
À quelques semaines de l'élection présidentielle, Yannick Jadot a réagi à la décision de Christiane Taubira de retirer sa candidature.
J'imagine qu'elle est aujourd'hui très déçu. Il faut que Christiane Taubira, après son délai de réflexion légitime, s'inscrive de nouveau dans la campagne et si elle choisit de nous rejoindre, elle aura évidemment toute sa place.
Le candidat écologiste a aussi parlé de l'Ukraine.
En Ukraine, des femmes et des hommes se battent pour leur liberté.
Impossible de faire l'impasse dans ce contexte géopolitique. Yannick Jadot s'est par ailleurs dit favorable à l'envoi d'armes en Ukraine.
Quand vous avez des femmes et des hommes qui défendent leur liberté, qui défendent la démocratie, qui défendent leur pays contre une invasion, eh bien oui, moi je suis pour qu'on fournisse des armes pour que les Ukrainiennes et les Ukrainiens se défendent.
Des mots qui n'ont pas échappé à Juliette, 18 ans, elle s'apprête à voter pour la première fois.
C'est vrai que ça peut être étonnant qu'un candidat de gauche parle d'envoyer des armes, mais ça peut être plus radical que seulement les mesures économiques.
Pour Christine Juste, adjointe au maire de Marseille en charge de l'environnement, cette prise de position est cohérente.
Nous sommes par essence des pacifistes, mais aujourd'hui, comment avoir une parole de paix? Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus que la voix des armes.
Direction ensuite la mairie de Marseille, pour Yannick Jadot, qui en a profité pour aller saluer le maire socialiste de la ville, Benoît Payan.
Reportage signé Kathleen Comte, la guerre en Ukraine qui s'immisce dans la campagne présidentielle et qui éclipse aussi un peu les bonnes nouvelles. Nous sommes en train de sortir de la phase aiguë de l'épidémie de Covid, c'est ce qu'a dit tout à l'heure le porte-parole du gouvernement. Un tiers de cas en moins en une semaine, on peut s'en réjouir. On peut aussi, depuis le début de la semaine, se démasquer à l'intérieur, partout ou dans tous les lieux qui sont soumis au pass vaccinal.
Et pas encore dans ce studio.
Pas encore, peut-être bientôt.
On l'espère.
Un dernier mot de foot. Pour vous rappeler que ce soir, c'est la deuxième demi-finale de la Coupe de France. Nantes sera face à Monaco. Le vainqueur affrontera Nice qui a battu hier Versailles.
Merci Hélène Fini pour ce journal. À demain.
À demain.
C'est le moment de prendre votre téléphone dans un instant. Nous sommes solidaires avec les Ukrainiens. Faites-nous part de vos idées, vos envies pour les aider. Ils sont à 2300 km de nous et pourtant si proches. Mais tout de suite, un œil sur le ciel.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Du classique pour demain, Sébastien Léas. De la pluie à l'ouest, du soleil à l'est.
Avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation par l'ouest, le ciel sera bien chargé demain entre les côtes de la Manche, les Ardennes, le bassin parisien, la Nouvelle-Aquitaine et le Midi toulousain. Cette perturbation s'enfoncera quand même très lentement sur le pays. Demain matin, les pluies toucheront la Bretagne, la Manche et la Vendée. L'après-midi, cette bande pluvieuse s'étendra entre la Basse-Normandie, les Pays de la Loire, la Gironde et le Pays Basque. Entre le nord de la Seine et Midi-Pyrénées, les nuages vont quand même se morceler demain après-midi. La Bretagne retrouvera aussi progressivement des éclaircies. Le soleil se montrera davantage sur les régions de l'Est et le long des Pyrénées. L'Alsace, le Jura, les Alpes et le pourtour méditerranéen auront même un ciel bien dégagé demain. En revanche, sur les Alpes-Maritimes et la Corse, la journée sera nuageuse et quelques petites averses ne sont pas exclues. Ces averses se produisant essentiellement sur la Corse du Sud.
Et dans la journée, des températures en hausse.
Oui, minimales comme maximales seront un peu plus élevées demain. Attention tout de même aux gelées nocturnes. Elles seront généralisées sur le Grand Est, plus localisées sur la Provence et la Corse. On attend moins 3 degrés à Strasbourg et 0 degrés à Avignon et Figari, par exemple. Demain après-midi, les températures afficheront 11 degrés à Quimper et Verdun, 12 degrés pour Dunkerque, Paris et Évreux, 13 degrés à Poitiers, Colmar et Ajaccio, 14 degrés à Angers, Bourges, Dijon et Antibes, 16 degrés à Grenoble, Nîmes et Mont-de-Marsan, et on ira même jusqu'à 18 degrés du côté de Carcassonne.
Merci Sébastien.